un projet unique présenté au musée des arts précieux Paul Dupuis sur les arts de l'islam. Des œuvres provenant du musée du Louvre, mais aussi du musée de l'armée, des abattoirs ou de la basilique Saint-Cernin, sans compter celles déjà présentes, nombreuses, au musée Paul Dupuis. Pour découvrir cette exposition, nous recevons ce matin le directeur des musées Paul Dupuis et Georges Labitte. Bonjour Francis Saint-Genèse.
Bonjour.
Alors, du 20 novembre au 15 mars, 10 œuvres exceptionnelles sont présentées au musée Paul Dupuis à Toulouse autour du projet intitulé « Art de l'islam, un passé pour un présent ». Pouvez-vous nous raconter, Francis Saint-Genèse, un petit peu la genèse de ce projet d'exposition ?
Alors, la genèse de ce projet, à la base, c'est une commande politique d'Emmanuel Macron. Donc, il fait suite à son discours du 8 octobre 2020 contre les séparatismes. Donc, il a souhaité qu'il y ait un vaste dispositif de promotion des arts et cultures de l'islam en France pour montrer que les cultures arabo-musulmanes sont un des ferments, un des éléments de la culture française et du patrimoine français depuis bien longtemps, depuis bien avant la période coloniale, souvent, ces choses remontent au Moyen-Âge. Donc, l'idée était de montrer que les collections des musées, les collections des monuments historiques, les œuvres d'art islamique présentes sur le territoire le sont depuis un passé très ancien et qu'elles ont nourri la culture européenne depuis fort longtemps. Donc c'est l'essence de ce titre, un passé pour un présent, pour nous dire que ces choses-là sont depuis très longtemps dans notre culture et qu'elle continue aussi aujourd'hui par un certain nombre d'artistes, par un certain nombre d'auteurs, de l'enrichir et de l'hybrider en quelque sorte.
Et donc le musée Paul Dupuis était bien placé puisqu'il a dans ses collections justement des œuvres qui viennent de cette culture, comme vous disiez, arabo-musulmane.
Oui, nous avons quelques trésors anciens effectivement dans les collections du musée Paul Dupuis. Pardonnez-moi, tous ne sont pas montrés dans l'exposition, mais on a sorti de très belles œuvres comme l'astrolabe d'Aboubakar Ibn Youssouf, qui est un astrolabe marocain du XIIIe siècle, l'olifant dit corps de Roland, qui est une œuvre sinon arabo-musulmane, mais en tout cas d'inspiration fortement orientale.
Un olifant, vous pouvez rappeler ce que c'est exactement ?
Alors un olifant, c'est une corne, en ivoire là en l'occurrence, c'est une corne qui a été sculptée dans une défense d'éléphant, qui pouvait servir soit à la guerre, soit à la chasse. Et il y a une pratique aussi qui était courante depuis le Moyen-Âge, qui était de boire avec les olifants, ça servait à des libations. C'est une pratique qui est connue dès le plus ancien Moyen-Âge en Europe.
Vous avez parlé de cet astrolabe, c'est un instrument donc qui est dans vos collections. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu pour qu'on l'imagine, un petit peu sa taille
Bon, sa taille, c'est fait en diamètre, il doit faire un peu moins de 20 cm de diamètre, une quinzaine de centimètres. C'est un instrument en laiton, il est gravé. Il est gravé d'un certain nombre d'inscriptions relatives à la voûte céleste, puisqu'il s'agit de cela. Il s'agit de se repérer dans la voûte céleste à différentes latitudes.
C'est plutôt pour les marins, non, cet instrument ?
Alors, ça a été utilisé dans la navigation, mais pas seulement. C'est utilisé dans le calcul, dans un certain nombre de calculs astronomiques, astrologiques. Et cela peut, dans certaines conditions, aussi servir à calculer l'heure.
Il y a une œuvre qui est exceptionnellement sortie de son armoire, c'est le Suaire de Saint-Exupéry. Racontez-nous un petit peu cette histoire.
Alors, c'est une pièce de tissu qui est de grande dimension, c'est une pièce de soie brodée d'or et d'argent qui nous vient des ateliers andalous, voilà, donc l'Espagne du XIIe siècle tout de même. Et qui est une grande pièce de tissu qui provient du trésor de la basilique Saint-Cernin, qui est depuis le Moyen-Âge. On parle d'un suaire, alors ce n'est pas proprement parler un suaire, parce qu'un suaire c'est un linceul, oui. Si vous voulez. On parle d'un suaire parce qu'il a servi depuis le Moyen-Âge à empaqueter en quelque sorte les relique d'Exupère, qui est un des premiers évêques de Toulouse, qui est un évêque du 5e siècle, de la période des grandes invasions en France, en Europe.
Et on connaît un petit peu l'histoire de ce suaire. Il a été trouvé dans le tombeau de Saint-Exupère ou...
Alors, il était dans une châsse reliquaire en émail. D'ailleurs, la châsse reliquaire de Saint-Exupère est conservée au musée Paul Dupuis. Voilà. Et alors, cette châsse reliquaire était à Saint-Sernin au XVIe siècle. À la fin du XVIe siècle, elle a été ouverte pour voir ce qu'elle contenait. Et on a découvert ce tissu qui était en plusieurs fragments. Il y avait 9 fragments au total. On suppose, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été émises. Certains ont parlé d'une chasuble, c'est-à-dire un vêtement liturgique pour le prêtre. D'autres ont parlé de chape, qui est un autre vêtement liturgique qui sert aux bénédictions. On ne sait pas bien, en fait, puisque le tissu était en plusieurs morceaux. Il y a eu un remontage qui a été fait par un spécialiste, un inspecteur des monuments historiques dans les années 60, mais le montage est contesté par d'autres spécialistes. On ne saura pas forcément exactement de quel vêtement il s'agissait, mais ce type de tissu était... Il y avait un commerce assez florissant dans l'Europe médiévale de ces tissus, dont les premiers ont été fabriqués en Iran et ensuite sont passés par l'Espagne musulmane à partir du Xe siècle. Il y a un commerce qui s'est développé à partir de là, qui était extrêmement florissant, qui était bien sûr réservé à la très haute aristocratie, à des princes et à des membres du haut clergé.
D'accord. Donc c'est comme ça que ce tissu est arrivé en fait jusqu'à Toulouse et a été conservé. Et ça montre bien, enfin cet exemple du suaire de Saint-Exupère montre bien cette influence de la culture arabo-musulmane sur les arts et notamment en Occitanie.
Et oui,
vous auriez d'autres exemples ?
Oui, enfin, disons que qu'il s'agisse de motifs iconographiques, de manières de représenter le monde, il y a énormément de choses qui sont passées dans l'art roman par l'Espagne musulmane. Donc il y avait comme ça des biens de consommation, hein, des biens de luxe souvent, hein, comme ces tissus, comme
des objets
ou des ivoires gravés, de l'orfèvrerie qui nous venaient directement d'ateliers musulmans d'Espagne, parfois de plus loin aussi. Hein. On a des objets qui viennent soit d'Égypte, soit carrément du califat de Bagdad, qui circulent. Donc les objets circulent, les hommes circulent aussi, les idées, les manières de voir le monde. Donc très tôt, tout ça se rencontre, dialogue, s'hybride. Et la culture médiévale est très fortement imprégnée d'un certain orientalisme des époques assez hautes.
Alors cette exposition au musée Paul Dupuis, qui, je le disais, a été ouverte le 20 novembre, recueille aussi des œuvres qui proviennent d'autres musées, notamment le musée du Louvre avec son département des arts de l'islam et puis le musée de l'armée. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-unes ?
Oui, alors par exemple, l'affiche de l'exposition, c'est un portrait peint d'un sultan ottoman qui est Mustapha II, qui a régné au début du XVIIIe siècle. On le voit en costume d'apparat, entouré de certains de ses généraux. Ça a été un sultan assez guerroyeur, voilà, et qui a régné quelques années, un règne assez court. Là, c'est une tradition du portrait de cour qui, chez les sultans ottomans, remonte au XVIe siècle. Là, on est au XVIIIe siècle, dans une œuvre qui rappelle fortement la miniature, l'art de la miniature persane, par exemple. On est dans une des grandes traditions aussi de l'art musulman.
Avec sur portrait, puisque je l'ai aussi sous les yeux, des notes d'or, en fait. Est-ce que
c'est une peinture rehaussée
à la feuille d'or.
Oui, à la feuille d'or.
C'est ça. Vous avez aussi recueilli une cuirasse du musée de l'armée. Racontez-nous, parce que ça, j'imagine que les petits garçons pourraient être intéressés par cet objet de guerre.
Tout à fait, de guerre, d'apparat aussi. Hein, puisque,
et d'apparat.
Oui, tout à fait. C'est une cuirasse de l'Inde moghole, qui est là pour nous dire aussi que le monde arabo-musulman, ça va jusqu'à l'Inde. donc l'Inde a été... Enfin, il y a une présence politique musulmane dès le XIIIe siècle, le sultanat de Delhi, dans la plaine indo-gangétique. Ce sont des tribus d'origine turco-mongole, en fait, hein, et qui sont présentes dans la plaine du Gange dès le XIIIe siècle, qui vont petit à petit étendre leur domination sur le sous-continent indien. Ils vont descendre jusque dans le Deccan, hein, jusque dans le sud. Et voilà, ils vont se maintenir jusqu'au XVIe siècle pour être remplacés par d'autres tribus qui vont créer un grand empire qui est l'Empire moghol au début du XVIe siècle, le deuxième grand moghol qui est Apkar, qui va régner du milieu du XVIe au début du XVIIe siècle, va lui rêver d'une civilisation qui va faire la synthèse entre l'islam et l'hindouisme. Donc on a une société extrêmement mélangée. Un art aussi, ce sont souvent les empereurs moghols ont été des esthètes et des poètes, donc ce sont des gens fortement cultivés qui vont, et Apkar en particulier, plaider pour une société pour un certain syncrétisme culturel et religieux. À cette époque-là, le soufisme, qui est la branche mystique de l'islam, va dominer la société. Et donc on va voir naître une société qui sera à la fois musulmane et à la fois hindouiste. Un certain nombre de dirigeants moghols vont eux-mêmes se convertir à l'hindouisme.
D'accord. Avant d'aborder les différentes manifestations qui sont organisées en marge de cette exposition, je voulais que vous nous disiez juste un très court mot sur ce rouleau de prières, arabes de plus de 2 mètres de long et sur lequel sont inscrits intéressant dans la présentation de l'exposition, les beaux noms de Dieu, 99 beaux noms de Dieu. Vous pourriez nous en donner juste 3-4 pour qu'on puisse imaginer ces noms?
Oui, alors c'est un rouleau qui nous est prêté par la Bibliothèque d'études et du patrimoine de Toulouse, qui est un rouleau du 18e ou du 19e siècle, peut-être irakien, on ne sait pas bien sa provenance, et qui est une calligraphie de la sourate Yassine, qui est une sourate de protection. Et effectivement, elle commence par les 99 beaux noms de Dieu. Alors, le très miséricordieux, l'éternel, la lumière, il s'agit des qualités infinies d'Allah.
Allez, il nous reste moins d'une minute malheureusement pour voir les conférences, les ateliers de calligraphie, des concerts. Vous voulez nous en dire juste un petit mot pour tout ce qui est en marge de cette exposition?
Oui, des ateliers de calligraphie dans l'exposition pour adultes, pour le jeune public, des conférences. On a tout un cycle de conférences avec l'École du Louvre. On a six conférences, six rencontres en soirée, des concerts. Tout un tas de choses.
Voilà, tout ça à retrouver
sur le site du musée.
Sur le site du musée. Merci beaucoup, Francis Saint-Genès,
d'être
venu dans les studios de Radio Présence ce matin pour nous présenter cette nouvelle exposition au Musée des Arts Précieux. Paul Dupuis sur les arts de l'islam.